à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Anne-Sophie Pierry, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Alezard, Samuel Bernard, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Nous poursuivons donc notre semaine consacrée au café, alors qu'en début de semaine, nous nous intéressions à la production du café dans le monde, puis à sa consommation et aux cérémonies qui l'accompagnent. Nous posons la question aujourd'hui de l'avenir de la caféiculture.
Ça aurait dû être plein de café, d'ici à cette pointe. Comme il n'y a pas eu suffisamment d'eau pour ouvrir et faire tenir le fruit sur la branche, il y en a juste sur la pointe. J'ai des dettes au supermarché parce que je n'arrive pas à tout payer à cause de la sécheresse. J'ai aussi emprunté pour financer certaines choses, donc je suis débiteur auprès de la banque.
Avant, il y avait des étés, mais ils n'étaient pas très longs. Maintenant, ils sont très longs. Ça fait déjà 6 mois que c'est l'été et ils prévoient 5 mois de plus. Ça va tuer les agriculteurs.
Está a punto de perderse la cosecha.
On est sur le point de perdre la récolte de café. On va la perdre. Tous les agriculteurs sont désespérés. On est tous complètement désespérés.
Des producteurs désespérés au Brésil, en Colombie, inquiets pour l'avenir de leurs plantations. Aujourd'hui, ce sont près de 120 millions de personnes à travers le monde qui vivent directement ou indirectement du café et qui, comme ces caféiculteurs, se demandent de quoi sera fait leur futur. La hausse des températures, les sécheresses, mais aussi le gel ou les maladies fongiques, les menaces pesant sur les caféiers sont nombreuses. Mais pour la première fois, le dérèglement climatique semble poser un défi inédit pour cette plante exigeante, délicate, qui ne pousse que dans certaines conditions. En effet, selon un rapport publié en septembre dernier par l'Institut du Climat australien, si la limitation des émissions de carbone n'est pas rapidement atteinte, la production de café pourrait chuter de 50% d'ici 2050. Plus anciennement encore, en 2012, la Royal Botanic Gardens de Kew au Royaume-Uni publiait une étude en collaboration avec des experts éthiopiens selon laquelle le café arabica pourra même avoir disparu d'ici 2080 à cause du changement climatique. Alors quelles sont les conséquences de ce dérèglement climatique pour les caféiculteurs? Comment peuvent-ils s'y adapter aussi? Et au-delà, quels sont les défis de la culture du café? Dans quel état est-elle aujourd'hui et quel est son avenir? Quelles sont les réponses, les solutions que peut apporter la biotechnologie? Comment les états aussi peuvent-ils aider à ces mutations. On se penchera également sur les capacités transformatrices de la caféiculture. Dans nombre de régions, la culture du café a façonné les sociétés et a largement participé à la construction des États. Ce fut le cas notamment du côté de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Amérique centrale, on en parlera tout à l'heure. Mais pour nous accompagner ce matin, pour cette plongée dans la caféiculture, nous avons invité ce matin André Charrier depuis Duplex depuis Montpellier. Bonjour André Charrier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur de Montpellier Supagro, aujourd'hui à la retraite. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'Association pour la science de l'information sur le café. Et puis j'indique également membre de l'Académie de l'agriculture. Commençons avec cette question du dérèglement climatique. Il y a eu plusieurs études, j'en ai évoqué certaines, qui indiquent cette possibilité de la disparition du caféier à cause de ce changement climatique. Ce sont des études à prendre au sérieux. Le dérèglement climatique pourrait faire disparaître les caféiers. On pourrait se retrouver finalement, dans quelques années, à être obligé de faire pousser ces caféiers dans des serres, André Charrier?
Alors, ces études, effectivement, rapportent des évolutions, des possibilités. Ce sont des prédictions basées sur les différents scénarios changement climatique, en fonction des températures ou moyennes ou minimales, maximales, des pluviométries, et aussi des gaz à effet de serre, accroissement, donc doublement pour le CO2, etc. Donc ce sont différentes analyses qui ont été faites ou à l'échelle mondiale, ou à l'échelle des pays. À l'échelle mondiale, et surtout pour l'Amérique, il y a beaucoup d'études faites par le Centre international international qui est basé à Cali, en Colombie. D'autres études se sont focalisées sur l'Afrique de l'Est ou l'Asie du Sud-Est. Donc, on a de grands scénarios et donc, il est difficile, bien entendu, à travers des prévisions, de dire tout dépend des accroissements de température. Il y a des scénarios à plus 2 degrés, à plus 4 degrés, des gaz à effet de serre, disons, qui se maintiennent ou au contraire qui continuent à s'accroître, etc. Donc, c'est utile, je dirais, pour analyser la situation à long terme et aussi parce que on a affaire à une plante pérenne, c'est un arbre fruitier qui, lorsqu'il est planté, est installé pour 20, 30 ans, même plus.
Mais pourquoi est-ce un tel problème, finalement, ce dérèglement climatique? Je vais vous poser une question qui est un peu provocatrice, mais après tout, la chaleur et l'humidité sont favorables pour le développement des caféiers. Il suffit d'apporter suffisamment d'eau pour qu'ils résistent aux grosses chaleurs.
Partiellement, les conséquences sont quand même beaucoup plus dramatiques que cela parce que il y a des limites d'abord physiologiques. La plante a une adaptation. Alors la plante, je devrais dire les plantes, puisqu'il y a deux grands groupes de caféiers, hein, les arabica qui croissent habituellement en zone tropicale de moyenne altitude et le canéphora donc qui produit le robusta en basse altitude chaud et humide.
Et puis il y en a un troisième, le café à l'Ibérica.
Oui, mais qui est pratiquement plus cultivé, hein, très peu. Donc on n'en parlera peut-être pas beaucoup. Donc pour l'arabica, on est plutôt dans des températures moyennes de 18-22 degrés. Pour le robusta, on est au-dessus 22-26 degrés. Donc la question, elle est comment ces plantes réagissent à des accroissements de température et augmentation aussi de CO2. Donc il y a des études réalisées sur ce plan pour étudier, effectivement, voir en conditions contrôlées l'impact de ces différents facteurs. Alors, il y a des limites à la survie de la plante, mais bon, jusqu'à 30 degrés, souvent, le caféier peut
Elle
survivre.
Se tient plutôt correctement. Alors, vous avez raison de rappeler, je vous en prie.
Mais il y a d'autres conséquences sur lesquelles on reviendra sûrement, c'est que cela peut amplifier les maladies, affecter la production quantitative, mais surtout qualitative.
Vous rappeliez qu'il y a différentes familles de caféiers, il y en a seulement deux qui sont aujourd'hui du point de vue de leur consommation intéressante, c'est donc l'arabica et le canéphora qui est en fait le robusta, mais ensuite à l'intérieur de ces familles, il y a différentes lignées. Au fur et à mesure, au cours du temps, on les a choisies en fonction de leurs caractéristiques, on a pris les meilleurs, on a pris les plus résistants aussi. Aujourd'hui, on a beaucoup de lignées différentes.
Oui, c'est certain. On a des caféiers qui sont adaptés aux zones de grande culture habituelles d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Mais la sélection, je dirais, jusqu'à présent, n'avait pas été trop impactée par des questions de climatiques et environnementales évoluant rapidement. Et c'est parce qu'il y a eu de grosses période, par exemple, de El Niño sur l'Amérique du Sud, enfin, la façade pacifique de l'Amérique du Sud, et c'est avec 4-5 épisodes depuis l'année 2000 qui ont entraîné et des attaques de maladies, de rouille, donc des feuilles, qui ont perturbé énormément la production, par exemple.
Alors, justement, vous parliez du Brésil. Prenons l'exemple du Brésil, premier producteur mondial de café, environ 30% de la production mondiale. C'est vrai que ces dernières années, et en particulier les trois dernières, cette production de café, notamment de robusta brésilien, elle est en berne. Les sécheresses à répétition ont considérablement réduit les récoltes. Et donc, il y a plusieurs stratégies pour répondre à cette crise du café. La première, qui est quand même très importante, c'est celle du déplacement des sites de production. Par exemple, on s'installe, alors, pour ce qui est du Brésil, davantage vers le nord-ouest, vers l'Amazonie, pour replanter le café dans une région qui est précisément moins infectée par le manque d'eau, André Charrier. Ça, c'est la première des stratégies.
Oui, la première stratégie, c'est la migration. Et elle commence à se produire. Alors au Brésil, elle se traduit, comme vous l'avez dit, pour le Robusta, par une migration vers les zones plus humides de l'Amazonie, mais avec des impacts environnementaux et sur la biodiversité qui peuvent être importants. Ou pour l'Arabica, elle se traduit par une possibilité de cultiver l'Arabica plus au sud, dans le Mato Grosso do Sul, par exemple, à terme, où actuellement il y a eu des épisodes plutôt de froid jusqu'à présent et qui seront probablement moins fréquents.
Mais par ailleurs, si on regarde l'évolution justement des cartes des sites de production de café dans le temps, on se rend compte qu'en réalité, les zones de production ont progressivement migré, alors pour ce qui est du Brésil, vers le nord pour beaucoup, et vers des régions aussi plus montagneuses. Donc c'est pas un phénomène récent, en fait, ça fait longtemps qu'on observe ces logiques de déplacement des sites de production.
Alors, bien sûr, mais dans un premier temps, la migration était essentiellement due au fait que le café est une culture relativement récente et qui est une culture, disons, pionnière. On l'a installée, en fait, dans les zones d'installation des populations dans les zones tropicales, derrière l'utilisation des forêts, et donc la possibilité pour les paysans de s'installer et de planter en particulier des arbres fruitiers. Alors c'est le cas en Amérique latine. Donc le Brésil, ça a commencé par la façade atlantique et ça remontait vers l'intérieur du pays. Mais en Afrique de l'Ouest et centrale, on retrouve partout l'installation progressive du caféier dans les zones forestières, etc. Donc ça s'est fait par déplacement justement progressif. Alors aujourd'hui, où il y a et d'une part une volonté de protéger les forêts primaires qui existent encore en Amazonie, en Afrique centrale, et vers le fait qu'il y a de moins en moins de nouvelles surfaces qui peuvent être colonisées, on va vers une agriculture, une caféiculture qui reste en place. Et donc là, ça pose d'autres problèmes agronomiques, justement, de durabilité.
Et si on se projette un petit peu dans le temps, André Charrier, si on regarde par exemple à l'horizon 2050-2100, à quoi pourrait ressembler la géographie de la production caféière, compte tenu justement de ces processus de migration?
Oui, alors dans les différents pays, justement pourquoi on fait ces études, ces différents scénarios d'évolution du climat, c'est pour essayer de prévoir un peu les zones. Alors, pour l'Arabica, il est certain que les zones favorables vont se trouver à une altitude plus élevée. Par exemple, au Nicaragua, où on cultive en ce moment entre 800 et 1400 mètres d'altitude, l'Arabica, on prévoit qu'il faudrait migrer vers au-dessus de 1200 mètres, 1600 mètres. Mais il y a de moins en moins de terre dans ces zones, et on est souvent sur les volcans. Ou si on prend le sud, le Mexique, la région de Veracruz, où on cultive les meilleurs cafés à 1200, 1400 mètres, actuellement, il faudrait monter au-dessus de 1600 mètres. Et à ce moment-là, on perd 75% des surfaces caféières possibles. Donc, d'une façon globale, sur l'Amérique latine, on voit une diminution possible de 40% des surfaces favorables à l'Arabica. Pour le Robusta, on pourrait donner le cas de l'Ouganda, qui est le premier producteur africain, où la production actuellement est installée autour du lac Victoria, 800 000 mètres d'altitude, etc. La caféiculture se déplacerait plus en altitude sur la frontière du Rwanda, par exemple.
Et si on regarde les conséquences socio-économiques pour les caféiculteurs eux-mêmes, est-ce que justement ce phénomène de dérèglement climatique a un impact sur les emplois eux-mêmes? Parce qu'il y a effectivement ceux qui décident de transposer, de migrer leur site de production, mais il y a ceux aussi qui les abandonnent tout simplement, qui vont se lancer dans l'élevage. Il y a aussi ceux qui vont remplacer par d'autres cultures. Je parlais du Brésil, par exemple la canne à sucre, quelque chose vers lequel beaucoup de caféiculteurs se tournent. On a déjà noté beaucoup de pertes d'emplois. Les conséquences socio-économiques sont déjà importantes.
Les conséquences seront forcément importantes, elles le sont, mais elles l'ont toujours été. Elles dépendent aussi beaucoup du type de caféiculture. Est-ce qu'on est sur des petites exploitations familiales, donc un paysan qui ne pourra pas migrer, donc qui va s'adapter, modifier ses productions.
Qui est la majorité de la production actuelle, hein?
Oui, et ce qui est la majorité de la production, donc eux peuvent être très impactés parce qu'il faudra qu'ils trouvent des substitutions qui sont d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire, donc beaucoup de vivriers, d'arbres fruitiers, etc., de bananiers, en Afrique de l'Est par exemple, et on va donc essayer de s'adapter à ce niveau-là. Si on est dans un système au contraire de grandes exploitations qui sont financées par des consortiums importants, parfois internationaux, etc., on jouera sur l'adaptation aux productions les plus favorables de la région à un moment donné. Donc on change de culture, effectivement, on passe à la canne à sucre, on passe à des oranges, on passe à l'EVA dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, par exemple.
Et est-ce que les États accompagnent justement ces mutations ?
Alors, il y a des... Le caféier a toujours été plus ou moins sujet. Alors, d'abord, sous la contrainte, bien sûr, des variations internationales du prix du café, vous l'avez rappelé dans la première émission. Et de l'autre, vous avez l'impact des plans de relance ou de soutien. Donc il y en a toujours eu. L'Europe a par exemple soutenu relativement le développement du Robusta après dans les années 50-60 en Afrique. Vous avez des plans de développement dans chaque pays. Et alors les plus marquants sont bien entendu les nouveaux producteurs comme le Vietnam, qui en 20 ans, donc sous une disons un encouragement au niveau national, ont développé le Robusta, ou la Chine qui encore plus récemment en 20 ans a développé l'Arabica dans le Yunnan.
L'Arabica, justement, apparemment c'est la plante qui est la plus exposée à cette menace du changement climatique, sachant qu'aujourd'hui c'est à peu près 60% de la production mondiale de café. Or, il est important pour la durabilité de l'industrie du café, parce que c'est cette Arabica précisément qui renferme la plus grande diversité génétique, en tout cas bien plus importante que pour le Robusta.
Alors, la plus grande diversité de variété, tout à fait d'accord, parce que là on parle sur le marché. Le produit, donc le café vert qui est vendu, en Arabica, il est vendu différents niveaux de qualité. Donc il y a les extra doux, les mild de Colombie, ou au contraire les Arabica naturels, donc simplement séchés au soleil du Brésil ou d'Éthiopie. À l'intérieur de ces catégories, on distingue la façon, les origines en fait géographiques, donc sous les pays et même souvent des régions et parfois même des variétés. Alors ceci tient au fait que dans l'Arabica, qui est cultivée depuis 3 siècles à peu près, il y a eu progressivement des variétés différentes qui ont été reconnues et dont la qualité a été attestée. Et donc on a une grande diversité. Alors que dans le Robusta n'est cultivé que depuis juste un peu plus d'un siècle. Et le Robusta est vendu en fait sur le marché comme une commodité, disons, de masse, pas très peu valorisée. Donc il y a en fait très peu de différenciation qui a été introduite dans le Robusta, à part quelques origines. Il a une valeur simplement globale et il est utilisé beaucoup en café soluble. Donc transformation industrielle, pour la consommation qui se développe dans les pays producteurs d'ailleurs de la planète. Et donc ce café aujourd'hui est en croissance donc de production en fait et de demande. Et une demande qualitative va forcément se faire jour et se fait jour de plus en plus pour justement le développer.
Mmh. Mais quoi qu'il en soit, André Charrier, il est très important, décisif de conserver finalement ce patrimoine génétique des caféiers. Pour ce faire, on a lancé des programmes de conservation dès les années 60, il y a longtemps maintenant, soit en conservant directement des plants, soit sous forme de semences. Mais vous dites que ces solutions ne sont pas sans poser problème. Lesquelles précisément ?
Alors la conservation des espèces de caféiers se situe à deux niveaux. Les caféiers spontanés, l'arabica donc en particulier, sont originaires de pays d'Afrique, donc l'Éthiopie pour l'arabica, pour le Canephora, le Robusta, c'est toute l'Afrique centrale et de l'Ouest, et les forêts disparaissent. Donc les caféiers, qui sont des plantes de sous-bois, disparaissent avec. C'est pourquoi le cri d'alarme pour l'Éthiopie, c'est effectivement le fait que la déforestation est très rapide, la démographie importante, on a de moins en moins de zones forestières. Alors, conserver les caféiers naturels, c'est conserver des réserves naturelles. Et vous savez que pour maintenir les réserves, c'est très compliqué dans beaucoup de pays du Sud, sous différentes pressions. Alors, les solutions alternatives, qui sont des solutions pratiques, mais qui n'assurent pas l'avenir à très long terme, forcément, c'est de conserver les caféiers vivants dans des collections. Alors, il y en a en Afrique, dans différents endroits. La France a des collections de travail pour ses chercheurs de l'IRD, du CIRAD, etc., qui sont à La Réunion et en Guyane. Et une conservation de graines par cryoconservation est aussi étudiée, réalisable pour l'arabica, mais encore, problématique pour d'autres espèces.
Oui, parce que les graines de caféiers graines de caféiers ne se gardent pas très longtemps. Et pour ce qui est des plants, des collections de plants, vous dites aussi que, de fait, de les retirer de leur environnement, ça les soustrait aussi des processus évolutifs et adaptatifs naturels.
Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse. Quand on parle de l'adaptation au climat, ce que l'on cherche, par exemple, c'est dans la diversité naturelle existante, les régions où les conditions environnementales font que les caféiers sont, par exemple, plus adaptés à la sécheresse. C'est le cas dans le Robusta pour les caféiers qui viennent d'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui sont plus dans des conditions beaucoup plus sèches qu'en Afrique centrale.
Alors, parmi les pistes, André Charrier, il y a aussi la restauration des forêts, qui est donc une gestion plus durable des plantations pour lutter justement contre le changement climatique. Direction le Mexique.
Il nous faut améliorer les sols et utiliser la pluie au maximum. Planter plus d'arbres nous donne plus d'humidité, plus d'oxygène et contribue à traiter le problème du réchauffement de la planète. Même si nous savons que nous ne sommes pas responsables du réchauffement, mais que ce sont d'autres qui en sont la cause, nous devons nous aussi faire quelque chose. Nous le ressentons déjà, nous voyons les changements, nous ressentons la chaleur. Par exemple, il ne pleut plus comme avant.
Voilà, c'était Leandro Salinas, membre d'un groupe de producteurs de café de la région côtière d'Oaxaca au Mexique. Il y a une piste, André Charrier, qui est très intéressante et qui est suivie donc pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est les cultures en sous-bois, l'agroforesterie, permet de réguler un petit peu les températures et qui présente l'avantage là d'être naturel. C'est une piste intéressante, André Charrier.
Alors tout à fait, depuis une vingtaine d'années, la promotion de l'agroforesterie, et en fait qui est une approche agroécologique, est un retour un peu aux sources, parce que les caféiculteurs au départ ont cultivé le caféier souvent sous forêt, comme j'ai dit, c'était dans des fronts pionniers de forêt, et souvent ils l'ont laissé, c'est une plante d'ombrage, donc ils l'ont laissé dans des zones plus ou moins à l'ombre. Et c'est dans un effort d'intensification dans les années 60-80 que l'on a fait des cultures en plein soleil avec beaucoup d'intrants pour que le caféier survive, irrigation, etc., engrais. Et donc on revient vers un système qui est plus, disons...
traditionnel.
Balancé. Alors, on veut revenir vers une agroécologie, quand même, une agroforesterie, qui permette une production quand même suffisamment élevée, parce que dans le système traditionnel, on est à des productions vraiment très basses de quelques centaines de kilos de café à l'hectare, ce qui est trop peu. Et dans l'agroécologie, on cherche, par l'agroécologie, à faire une démarche qui intègre en fait des variétés plus adaptées, plus productives, résistantes à des maladies quand on le peut. Donc on essaie vraiment d'améliorer tout le système de production avec des plantes de couverture ou qui apportent de l'engrais, disons de l'azote au niveau du sol, qui évite l'érosion, etc.
Et est-ce que ça fonctionne, André Charrier? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette agroécologie? Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour mesurer précisément les résultats de l'agroforesterie sur des plantations en Amérique centrale, en Inde, en Afrique. Concrètement, quels sont les résultats?
Les résultats sont bons parce que on peut avoir une des productions qui se situent nettement au-dessus, qui peuvent être entre 600 kilos, 800 kilos à 1500 kilos au moins de café à l'hectare, et une qualité aussi du café qui est améliorée. Parce que la physiologie de la plante est meilleure, le développement du grain se fait plus de façon à concentrer, à accumuler plus de réserves, et donc parce que le problème du caféier, c'est quand même que le fruit se développe pendant 7 à 8 mois pour l'arabica, 10 mois pour le robusta. Donc s'il y a des phénomènes de perturbations climatiques, stress, sécheresse, chaleur, etc., la physiologie en est perturbée, et donc la qualité du produit. Donc en fait, en agroforesterie, ce qu'on cherche, c'est un effet tampon. Donc on n'atteint pas les performances aussi élevées qu'en plein soleil, mais on se situe, je dirais, dans un compromis, en fait.
Et est-ce que les marges de manœuvre dont on dispose sur l'agroforesterie suffisent? Pour le dire autrement, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi travailler sur les progrès biotechnologiques? Est-ce que le génie génétique va devoir prendre la suite parce que ça ne suffira pas?
Oui. Alors, j'ajouterais juste par rapport à la question.
C'est une question, je pose.
L'Inde a beaucoup investi, a beaucoup pratiqué une agroforesterie très, très traditionnelle qui fonctionne bien depuis longtemps. Ce n'est pas une mode récente pour l'Inde, avec des associations intéressantes, quoi, parce que en plus des caféiers, on cultive du poivre, la cardamome, etc. Enfin, on est dans des systèmes très très équilibrés. Alors pour répondre à votre question, bien entendu, on attend beaucoup des avancées. Alors biotechnologiques, elles sont de nature. Il y a les aspects biotechnologiques qui servent essentiellement à multiplier les caféiers de façon massive, de pouvoir multiplier rapidement et en grande quantité des caféiers, donc élites et adaptés.
Et puis il y a aussi le bricolage génétique.
Alors on va y venir. Donc la multiplication végétative avant se fait classiquement, comme pour tous les arbres fruitiers, par bouturage ou greffage. Et là, on a un moyen de multiplier par culture in vitro en masse, de grandes quantités, de produire de grandes quantités de plants identiques à la plante mère exceptionnelle que l'on peut avoir sélectionnée. L'autre, alors ça se met en place dans un certain nombre de pays, en particulier au Mexique, au Nicaragua. Enfin, il y a différents endroits où ceci est en cours de développement. Quant aux autres biotechnologies du génome, d'abord, on vient de séquencer le génome du Canephora, donc publié en 2014, et le séquençage du génome de l'Arabica est pratiquement terminé, réalisé par trois consortiums différents et publié, je pense, dans l'année 2017. Ceci va nous aide beaucoup, le séquençage va beaucoup servir d'une part à justement rechercher les gènes qui correspondent à des adaptations. Des adaptations ou des résistances à des maladies, ou des gènes associés aux produits de la biosynthèse qui servent à la qualité, c'est-à-dire tous les composés biochimiques importants. Donc ça, c'est vraiment du futur, mais qui permet, c'est les nouveaux outils. Quant aux aspects de génie génétique, enfin de transformation, on sait transformer le caféier par génie génétique. Ceci a été tenté en particulier pour deux aspects. La résistance à un parasite très important, le coffee berry borer, c'est-à-dire un petit insecte qui ronge l'intérieur des fruits et donc qui fait perdre toute la récolte et qui existe dans le monde entier et qui est très très important, pour lequel on n'a pas de résistance naturelle génétique.
Donc on peut attendre des résultats en la matière.
On n'a que des méthodes de ce qu'on appelle de protection intégrée aujourd'hui pour lutter contre ce parasite.
On est avec André
l'autre, Charly. L'autre transformation qui a été faite, c'est par les Japonais de réduire et de limiter, disons, le fonctionnement de la chaîne de biosynthèse de la caféine et de pouvoir obtenir des plantes qui produisent peu ou pas de caféine. Ça, c'est une autre voie.
C'est une autre voie. En tout cas, voilà le cadre est posé, on se demande comment transformer cette caféiculture pour la faire notamment résister à ce dérèglement climatique. On va inverser la question et on va se demander comment la caféiculture a transformé les choses et en l'occurrence les sociétés et les États.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avons 70 millions de caféiers sur le même territoire.
And as you know, in 1940-1950,
dans les années 40 et 50, le boom du café a fait du Kilimanjaro ce qu'il est.
The Kilimanjaro is playing a very vital role in Tanzania in terms of human resources.
Le Kilimandjaro joue un rôle essentiel en Tanzanie, en termes de ressources humaines, de développement économique, d'éducation et d'infrastructures, d'écoles et de services de santé, ainsi qu'en termes d'alphabétisation. Nous sommes la seule région à bénéficier d'un taux d'alphabétisation de 94%. Et cela est le résultat du boom du café.
L'alphabétisation, conséquence du boom du café pour le professeur Sarungi au Kilimandjaro, la caféiculture a été introduite à la fin du 19e siècle. Extrait de ce documentaire Caféiculture Kilimandjaro, le café au bois dormant de Bernard Charlery de la Masselière, édité en 2000 par l'Université Toulouse 2, Le Mirail. On va retrouver justement Bernard Charlery de la Masselière. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour,
oui.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, enseignant à l'Université Toulouse 2, Le Mirail. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique de l'Est. Vous êtes intéressé au développement rural et aux filières agricoles et en particulier à la caféiculture. Vous avez été d'ailleurs directeur de l'Institut français de recherche en Afrique à Nairobi, au Kenya jusqu'en 2010 et puis ensuite en Tanzanie jusqu'en 2016. Pour comprendre ce que sera l'avenir de la caféiculture en Afrique de l'Est, il faut regarder évidemment le passé pour comprendre sur quelle trajectoire on se situe aujourd'hui. On rappelait hier avec nos invités que le café est originaire d'Éthiopie. Il s'est ensuite diffusé au reste du monde, par la péninsule arabique, l'ensemble de l'Empire ottoman, et puis ensuite l'Europe. Et c'est par l'Europe qu'il va revenir vers l'Afrique, par les mouvements de colonisation, et notamment dans toute cette zone est-africaine, la Tanzanie, le Kenya, mais aussi le Rwanda, le Burundi. Et c'est en fait le pouvoir colonial qui a promu cette caféiculture paysanne, Bernard Charlery de la Masselière.
Oui. C'est d'ailleurs un paradoxe que ces pays qui sont très proches de l'Éthiopie n'ont pas connu le café à partir de l'Éthiopie. Mais le café a été, Arabica, a été diffusé dans cette région à la fin du 19e siècle, en fait au départ par les pères de la Congrégation du Saint-Esprit, qui venaient de l'île Bourbon, ou l'île de la Réunion, et qui sont arrivés d'abord à Zanzibar, puis ensuite ont atteint le continent, dans l'ancien port de Bagamoyo, où ils ont commencé à planter du café, mais on était au bord de la mer, ça n'allait pas. Et ils sont ensuite, au gré de la création des missions, diffuser la caféiculture, d'abord au centre de la Tanzanie, à Morogoro, ensuite au Kilimandjaro, et puis à Nairobi. Et après, la caféiculture s'est effectivement diffusée au Rwanda et au Burundi, entre autres. Voilà.
Et vous dites, Bernard Chalery de la Masselière, que la caféiculture, cette caféiculture paysanne, elle a participé à la construction sociale, sociétale, culturelle de toutes ces communautés locales, qui quelques décennies plus tard allaient gagner leur indépendance.
Oui, au départ, donc à la fin du 19e, c'est d'abord une culture autour des missions pour permettre la rentabilité, une certaine rentabilité économique des missions. Mais le pouvoir colonial a freiné la caféculture paysanne. Il y a eu des grandes plantations, au Kenya en particulier, avec l'arrivée des planteurs blancs, britanniques essentiellement, mais aussi au Tanganyika à l'époque, dans le nord, près du Kilimandjaro, où un certain nombre des bourgs venant d'Afrique du Sud, des Allemands, bien sûr, venant d'Allemagne, puisque le Tanganyika était sous contrôle allemand avant la Première Guerre mondiale, et puis les Anglais ensuite, des Suisses, des Indiens, etc., etc. Donc il y a eu d'abord une culture de grandes plantations. Mmh. Bon, quand on dit grandes plantations en Afrique de l'Est, il faut faire attention, ça n'a rien à voir avec les grandes plantations de Brésil, par exemple. Mmh. Mais bon, ce sont des estates, selon le terme qui est utilisé là-bas. Mais ces plantations, une partie de ces plantations n'ont pas résisté à la crise de 1929. L'exemple le plus médiatique, c'est celui de Karen Blixen au Kenya dans le film Out of Africa, hein, où elle avait investi des capitaux familiaux danois et suite à une série de déconvenues de sa plantation et de la crise de 1929, elle a dû arrêter ça. Et c'est à partir de 1930 à peu près que le pouvoir colonial décide en fait de soutenir la caféculture paysanne. Elle avait déjà essayé, parce que les agriculteurs africains avaient bien vu que c'était une culture intéressante qui rapportait de l'argent, mais réservée longtemps réservée aux blancs. En tout cas, on leur avait pas donné les moyens de diffuser leurs propres produits. Et donc, à partir de là, on peut estimer, je pense, que la caféculture devient une sorte de conquête sociale et économique qui permet aux agriculteurs, en particulier les plus dynamiques, d'entrer dans une nouvelle économie qu'on peut appeler l'économie du développement. Et d'obtenir le soutien à la fois du pouvoir colonial, mais aussi sous des formes indépendantes, la grande coopérative du Kilimandjaro, la KNC ou Kilimandjaro Native Cooperative Union, a été créée entre les deux guerres et elle a eu un pouvoir non seulement social et économique, mais un pouvoir politique également.
Oui, donc on comprend que cette caféiculture, elle devient finalement centrale, à la fois dans les modes d'organisation de ces sociétés locales, mais aussi dans la construction des États.
Oui.
Avançons un tout petit peu dans le temps, si vous voulez bien. On arrive en 62, il y a cet accord international qui définit des quotas pour les pays producteurs. Avançons encore, 1989, on suspend cet accord international. Vous avez-vous conduit un programme justement de recherche sur les conséquences de cette libéralisation généralisée du marché du café? Précisément, quelles ont été ses conséquences économiques et aussi sociales pour les petits producteurs, et puis aussi peut-être dans l'organisation même des États?
Oui, il faut voir que, il faut revenir un petit peu quand même dans les années 60, hein, que l'agriculture est la principale ressource de l'État, de ces États-là. Les États d'Afrique de l'Est sont des pays agricoles d'abord, et le café, évidemment, a participé directement aux ressources de l'État. Donc il y a eu une société, parce que j'appelle une société du café, bon, on pourrait en discuter, mais une société du café qui s'est construite par un compromis, par des relations d'abord réciproques, asymétriques bien entendu, entre les paysans et l'État, mais participant à une modernisation agricole dont les cultures dites de rente, là on parle du café, mais enfin on peut mettre le thé, il y a d'autres cultures, ont joué un rôle essentiel de consolidation de ce développement de l'État par le fait que les petits agriculteurs ont investi les territoires des codes de l'État et de l'intérêt même de l'État qui était de diffuser la culture du café. Et ça, donc il y a eu des belles années du café,
Mais tout ça va s'effondrer avec la libéralisation.
Dans les années 70, hein, où le prix du café a très fortement augmenté pour des raisons multiples, et où d'ailleurs les paysans se sont dit à ce moment-là, bah tiens, ça y est, l'effort qu'on a fait nous permet aujourd'hui d'entrer dans cette modernité urbaine, d'ailleurs, certains, au Kenya, par exemple, certains agriculteurs à cette époque ont investi en ville.
Mais tout s'effondre, voilà, c'est ça, allez-y.
Voilà, arrivent les années 80, et qu'est-ce qui se passe dans les années 80, enfin 85, c'est que d'abord les prix du café s'effondrent, hein, du coup la compétition à l'échelle internationale devient de plus en plus vive, et ceci conduit, comme vous l'avez dit, à la fin de l'accord général sur le café en 1989. Mais d'un autre côté, vous avez aussi, bon, à l'échelle internationale, hein, parce qu'il faut bien voir que le café inscrit le paysan, l'État, etc., déjà dans la mondialisation. Bon. Et du coup, la crise financière des années 80 amène les grandes organisations internationales à imposer aux pays du Sud, en particulier aux pays africains, ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, et en particulier les programmes d'ajustement structurel en agriculture, ce qui fait que les États africains ont dû se désengager de l'appui qu'ils apportaient à l'agriculture, parce que, et en particulier au café. Ouais. À ce moment-là, les grandes coopératives ont dû se mettre en retrait. En plus, si on prend le cas de la Tanzanie, bon, il y avait un conflit quand même entre les grandes coopératives considérées un peu comme capitalistes du pays de Chaga, là, au pied du Kilimandjaro, et la politique de Julius Nyerere, qui était, comme chacun sait, plus socialisante, hein, et dans les années 80, s'est développé enfin, au 70-80, ce qu'on a appelé à la fois la villagisation, etc., etc. Ce qui fait que la coopérative a été nationalisée en 1975 et rétablie en 1985.
Pour résumer le mouvement d'ensemble, on arrive aux années 80, 90, la libéralisation, une véritable crise là va advenir en ce qui concerne la caféiculture, qui va au fond devenir relativement marginale dans ces États. Merci beaucoup Bernard Charlery de La Masselière d'avoir été avec nous. On va essayer de faire le même travail, mais du côté de l'Amérique centrale, avec une nouvelle invitée, Noël Demic. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous, Noël Demic. Vous êtes géographe, professeur émérite à Paris 7, une spécialiste de l'Amérique latine. Vous êtes intéressé à la manière dont la caféiculture a transformé les sociétés centra-américaines au Costa Rica, au Guatemala, au Salvador et au rôle qu'elle a joué dans la construction, là aussi, des États de la région. Vous aviez notamment écrit un article il y a une dizaine d'années intitulé « Café et pouvoir en Amérique centrale ». Alors là, il faut rappeler une première chose, c'était la place de la caféiculture dans l'économie de ces pays, et ça depuis très longtemps. À la fin du 19e, les exportations de ces trois pays que j'ai cité, dépendait à 80-90% du café. Vous rappelez que pendant longtemps, c'était une source majeure d'enrichissement et de puissance des oligarchies nationales. Et vous dites même qu'il existe, je vous cite, un lien consubstantiel entre l'établissement d'un cycle d'exportation durable, le pouvoir des élites oligarchiques et la formation des États.
Oui, tout à fait. Et à cet égard, on peut parler pour les trois pays d'États caféiers. C'est-à-dire une transformation de l'État post-colonial qui s'opère au cours du 19e siècle, mais surtout qui s'accélère à partir des années 60-70 et qui est fondée sur une doctrine assez bien formulée qui est le libéralisme économique, un projet qui s'inspire directement des doctrines positivistes, hein, comme dans le reste de l'Amérique latine, avec la devise « ordre et progrès ». Et qui s'appuie également sur la fondation, le projet économique est supposé fonder également un projet national qui, et ça c'est très important, exclut de fait l'Indien.
Oui,
et
c'est ça.
Ça va entraîner des différences très importantes entre les pays.
C'est-à-dire que dès la deuxième partie du 19e siècle, on va mettre en place un État libéral avec un système favorisant une économie agro-exportatrice, avec en toile de fond, et là je vous cite encore, une idéologie anticléricale et raciste. C'est-à-dire que les communautés indiennes faisaient assez largement les frais de ce modèle de développement.
Oui. Oui, parce que il y a effectivement l'idéologie qui met l'Indien dans un statut inférieur, et puis il y a, et ceci permet lors de la du développement de la caféiculture d'utiliser, d'enrôler la main d'œuvre indienne dans un système de travail forcé. Et c'est ceci n'a pas eu lieu au Costa Rica, et c'est ça la différence essentielle.
Alors avançons un tout petit peu, Noël Demick, dans le temps. Arrivent les années 1930, la crise économique mondiale qui touche les États d'Amérique centrale, dont les exportations de café vont beaucoup reculer. À ce moment-là, quelles sont les réponses des oligarchies caféières à cette crise des années 30 et comment ça va transformer précisément ces États caféiers? Parce que vous parlez d'États caféiers.
Alors, la caractéristique antérieure, avant la crise des années 30 au Costa Rica, c'est l'importance des petits producteurs qui constituent une force économique et sociale et politique très forte. Ils sont évidemment soumis aux grands, aux plus grands planteurs, non pas tellement parce que ceux-ci monopolisent la terre, ce n'est pas ça, mais parce que ceux-ci monopolisent la transformation du café et le crédit. Donc, il y a une crise qui dure une vingtaine d'années au Costa Rica et à partir de 1948-1950 se met en place ce qu'on peut appeler un État-providence. Donc, un État social-démocrate qui se pérennise avec le soutien des États-Unis, du reste, hein, qui sont très influents dans la région, et qui va assurer la pérennité de la petite exploitation caféière.
Donc, avec des réformes majeures très importantes, la sécurité sociale, des droits sociaux, des nouvelles dispositions sur le droit du travail, c'est un vrai modèle d'État-providence qui émerge là.
Exactement. Il faut aussi parler de l'éducation, je fais écho à ce qui a été dit tout à l'heure. L'éducation qui est développée depuis le début du XXe siècle, ce qui est rare dans la région, et toute une série d'instances de régulation de la filière économique. Et en particulier, tout un programme coopératif qui va permettre aux petits producteurs de bénéficier de crédits, d'une assistance agronomique et de prix qui sont fixés par l'État et qui sont souvent plus intéressants que dans le circuit privé. Et parallèlement, alors, il y a cette intensification de la caféiculture qui est une véritable révolution verte, hein, à l'échelle du continent d'ailleurs, et qui nécessite des intrants beaucoup plus coûteux, beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Donc là, l'aide de l'État est effectivement essentielle, et donc on a bien une mutation du système économique, mais qui permet de faire perdurer, je dirais, le consensus social qui a fondé la société costaricienne.
Voilà, là on est dans les années 60, cette révolution verte qui progressivement se déploie, des modes de culture qui évoluent, on passe d'une culture sous ombrage à une culture sans ombrage, les surfaces augmentent également, ce qui permet d'entamer une belle phase de croissance très importante. On est là dans les années, des années en gros 50 au milieu des années 70, et puis j'avance encore, c'est à ce moment-là que la région entre à nouveau dans une crise. Il y a évidemment le choc pétrolier et puis la crise financière mondiale qui va s'en suivre et ce qui va participer à cette décennie de guerre civile qui embrase l'ensemble de la région dans les années 80. Et vous expliquez que cette période de trouble va aboutir à une forme de marginalisation politique de la faction caféière traditionnelle.
Alors, il y a des raisons effectivement externes, mais peut-être plus internes. Les politiques d'ajustement structurel qui sont appliquées dans toute la région durant les années 80 vont affaiblir effectivement l'économie de la petite exploitation, les salariés également, mais surtout le café perd sa place prédominante dans l'économie. Il est en déclin relatif, même si le nombre des fermes caféières reste très important, mais sa contribution à l'économie du pays devient de plus en plus faible. Et les élites, elles, se reconvertissent en quelque sorte. Donc le café devient maintenant plus, à partir des années 70-80, il est mis en danger par les fluctuations des prix internationaux, bien sûr, mais au plan national, il devient plus une valeur patrimoniale, un imaginaire collectif, mais il n'est plus le levier fondamentale de l'économie costaricienne qui est dominée par les zones franches industrielles et le café est également relativisé par l'introduction de nouvelles cultures comme les ananas, etc. Donc,
oui, vous dites le temps est révolu où le café s'identifiait à l'État et à la nation.
Exactement. Cela fait partie de l'histoire. Une histoire qui reste connue encore, mais dont on peut penser qu'elle va progressivement disparaître des mémoires collectives avec le temps. Parce que il n'y a plus il y a encore énormément d'emplois qui sont donnés par la caféiculture, mais là aussi, relativement, cela tend à s'atténuer. Même si on est encore probablement entre 500 000 et 1 million de personnes, si l'on tient compte des saisonniers, ce qui, sur une population de 5 millions d'habitants, n'est quand même pas négligeable.
Non, ce qui est très important, et ce qui, a priori, leur confère aussi un certain poids politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la caféiculture a quand même conservé un certain poids politique. Alors, pour combien de temps encore, on n'en sait rien, mais c'est encore le cas. Rien que le nombre, effectivement, de personnes qui travaillent dans le secteur sont là pour le prouver.
Tout à fait.
Reste à savoir si ça va durer.
Voilà, il reste, si vous voulez, une capacité à exprimer les besoins, mais qui s'est élargie au-delà du secteur caféier, qui s'est élargie à tout le secteur agricole, le secteur minier. On a au Costa Rica, et en liaison avec cette histoire d'éducation et de lutte sociale, on a une capacité de mobilisation de la société sur les projets économiques qui reste essentielle et qui n'est pas réprimée comme elle l'est ou elle l'a été au Salvador et au Guatemala.
Merci beaucoup, Noël Nemic, d'avoir été avec nous ce matin. Iyo michezo ya jogo, ona watizama chini sarome wangu Ukimwona jongo, inama kidogo, shika magoti. Merci donc à Noël Demy qui est avec nous par téléphone à l'instant, qui est géographe, professeur émérite Paris 7. C'est absolument étonnant, passionnant de voir combien le café a participé à l'émergence de ces États centra-américains. Je remercie également Bernard Charlery de la Messelière qui était également avec nous par téléphone et surtout André Charrier qui nous a accompagnés durant toute cette émission. André Charrier qui est donc enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, aujourd'hui à la retraite, qui est membre du comité scientifique de l'Association pour la science et l'information sur le café et également membre de l'Académie de l'agriculture. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin, André Charrier, ainsi que les techniciens qui étaient à Montpellier et qui ont permis de réaliser ce duplex. Un grand merci à eux. C'est avec cette très belle musique tanzanienne qu'on se quitte. Il est 11h passé de 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice qui nous parle de l'élection présidentielle française, mais aussi de l'Allemagne. Pour réussir, Emmanuel Macron a besoin de la solidarité de l'Allemagne. On en parlait hier. Vous nous avez expliqué que Berlin était certes soulagé d'avoir vu triompher le candidat le plus europhile à la présidentielle, mais que Merkel attend que la France mette enfin en œuvre les réformes de structure avant de s'engager dans des projets communs. Et pourtant, la donne internationale a changé. Trump, le Brexit.
Oui, Florian, et cela aussi contribue à rapprocher les deux moitiés du couple. Le comportement du président américain lors des récents sommets de l'OTAN ou du G7 a convaincu la chancelière que la politique américaine envers les alliés européens avait bel et bien basculé. Non seulement Trump attaque l'Allemagne au cœur de son projet politique d'après-guerre, le commerce extérieur, mais il tend à remettre en cause la garantie de sécurité américaine sur l'Europe. Or, pour l'Allemagne, où sont stationnés 35 000 soldats américains, cette garantie est vitale. La solidarité atlantique avait déjà été ébranlée par le pivot vers l'Asie d'Obama, mais Trump va beaucoup plus loin dans la remise en cause du lien transatlantique. Il estime, à juste titre d'ailleurs, que les Européens ne partagent pas équitablement les frais de leur propre défense. La moyenne européenne des budgets consacrés à ce secteur atteint péniblement 1,2% du PIB en Europe contre 3,3% aux États-Unis ou 3,7% en Russie. Les États-Unis assument à eux seuls plus des deux tiers des dépenses de l'OTAN. Alors l'Allemagne, où sont stationnés, je le disais, 35 000 soldats américains, a été le partenaire le plus fidèle des États-Unis. Ce pays éprouve en raison de son histoire des scrupules très particuliers envers l'usage de la force armée, et c'est sans doute la raison pour laquelle les gouvernements allemands ont gravement négligé l'équipement de leurs armées. Les notes alarmistes sont succédées à la commission de la défense du Bundestag. La moitié seulement des Eurofighters allemands de la Luftwaffe sont réellement opérationnels et moins de la moitié des hélicoptères de leur marine. L'achat des pièces de rechange a été gelé durant des années. L'Allemagne s'est beaucoup trop reposée sur les États-Unis pour assurer sa sécurité. Elle se réveille aujourd'hui avec inquiétude. D'où l'idée de relancer le vieux projet de défense européenne. D'autant que, de notre côté, du côté français, l'utilisation des forces sur plusieurs théâtres d'opération ces dernières années les a épuisées et que nos matériels sont souvent en fin de parcours. Ici aussi, un effort financier massif est devenu indispensable et le cadre européen, franco-allemand en particulier, permettrait de mutualiser les achats et de favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité.
Alors la question du Brexit maintenant. La Grande-Bretagne, c'est la troisième armée du continent. Elle dispose encore, elle, de capacités d'intervention réelles. Quel rôle peut jouer ce Brexit dans un tel contexte?
Les experts divergent sur ce point. Vous en avez qui considèrent que les Anglais constituaient un facteur de blocage. Ils ont toujours refusé une véritable intégration de leurs forces au sein d'une armée européenne. Leur départ constituerait donc une opportunité à saisir pour relancer la communauté européenne de défense, tombée à l'eau en 1954. Mais vous en avez d'autres qui estiment que le retrait des Britanniques de l'Union européenne ne signifie pas nécessairement la fin de toute coopération militaire avec cet acteur relativement important pour la défense de l'Europe continentale. Relevons en passant que le rapprochement franco-allemand en cours inquiète beaucoup le Royaume-Uni. Les diplomates britanniques espéraient encourager des divisions entre les deux États membres les plus puissants pour obtenir un meilleur deal, écrit ainsi le Financial Times. Eh bien, cet espoir, poursuit le Financial Times, a vécu lorsque Macron a gagné, car les deux partenaires présentent à présent un front uni.
Et alors, au bilan, Brice, les Allemands vont-ils aider ou non Macron?
Oui, c'est certain. Pour une raison simple, ils ont un intérêt vital à ce qu'ils réussissent. Dans une note de l'important think tank allemand Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Daniela Schwarzer écrit « Nous autres Allemands devrions prendre garde au fait que 45% des électeurs français viennent de voter pour des partis populistes et europhobes. Le PS, dit-elle, est en voie de désintégration, ses électeurs sont tentés par le populisme gauchisant. LR est tellement menacé par le Front National qu'une partie de ses dirigeants sera tentée de durcir son discours européen et de s'aligner sur les thèses souverainistes. Bref, la poursuite de l'aventure européenne est menacée. » Alors, les dirigeants allemands doivent donc aider Macron en appuyant ses idées de réforme en Europe afin de démontrer aux électeurs français que la voie des réformes de structure en interne est payante. Et de leur côté, vous avez Thomas Gomart, le directeur de l'IFRI, et Thorsten Benner, le directeur du GPPI de Berlin, qui co-signent ce mois-ci dans la revue Foreign Affairs un article qui va dans le même sens. Je les cite. « La présidence Macron, écrivent-ils, offre la meilleure chance de revivifier la relation franco-allemande au moment où l'Europe en a le plus besoin. Le deal est simple et clair, disent-ils. La France mène à bien ses réformes de structure et en échange, l'Allemagne accepte le plan de relance au niveau européen de Macron. Si Martin Schulz, SPD, est élu chancelier, Macron obtiendra un appui à 100%, car son parti est exactement sur la même ligne. Si c'est Angela Merkel, CDU, qui est réélue, elle devra néanmoins rencontrer le président français, je cite les deux auteurs, à la moitié du chemin. De toute façon, il y aura une fenêtre d'opportunité aussitôt passées les élections allemandes de septembre pour une relance décisive du couple franco-allemand et donc de ses initiatives pour l'ensemble de l'Europe.
Merci beaucoup Brice Couturier, cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.